Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Et nous reprenons l'étude de cet Évangile. Nous allons lire les versets 1 à 16 et nous focaliser sur les versets 10 à 16. Mais relisons à partir du début de ce chapitre. Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1. Et voici la parole de Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ceux qui font du bien, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous avons vu donc que le Seigneur Jésus-Christ appelle des disciples à le suivre. Et dans les Béatitudes, nous avons vu tout d'abord le caractère béni, heureux du disciple, du véritable disciple. Et commence par des béatitudes de besoin. Le disciple est pauvre en esprit. Il reconnaît son besoin spirituel. Il reconnaît son incapacité à se réformer lui-même par ses propres efforts. Ensuite, il pleure, il est affligé. Il pleure son péché, mais il pleure aussi à cause du péché qu'il voit autour de lui, dans l'Église, mais aussi autour de l'Église. Et il est rempli de douceur, il reconnaît sa pauvreté spirituelle. Il ne va pas chercher à s'élever au-dessus des autres, parce qu'il sait que les autres, qu'il est autant dans le besoin que les autres autour de lui. Puis ensuite, il y a la bénédiction charnière, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Quand le disciple voit ses besoins, voit sa situation spirituelle, il désire voir le règne de Dieu dans sa vie. Il a soif de Dieu, il a soif de la parole de Dieu. Il se réfugie dans la justice seule de Christ. Il désire voir plus de justice dans sa vie et autour de lui. Il attend avec impatience ce jour où la justice règnera partout au retour du Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Et ensuite, on a vu les conséquences de ce caractère du véritable disciple. Il est plein de miséricorde. Il apprend à être patient, à être compatissant avec les défauts des autres. Il sait qu'il ne peut pas se voir meilleur qu'un autre qui combat, qui lutte avec le péché, parce qu'il sait que lui aussi, il est peut-être déjà tombé dans ce péché, ou qu'il est capable, il est possible pour lui de tomber dans ce péché, dans ce même piège. Il désire un cœur pur, pas seulement une piété extérieure, Mais il ne veut pas jouer un double jeu. Il veut que sa vie intérieure corresponde à sa vie extérieure. Et il procure la paix. Il sait qu'il est sans mérite. Il ne court pas après la reconnaissance des autres. Il a déjà la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il apprend à se reposer toujours plus sur Dieu, à renoncer à ce qui peut apporter, être à l'origine des inquiétudes, au mécontentement, à l'envie, à vouloir connaître les motivations des autres. Non, il se repose sur le Seigneur Jésus-Christ et sur cette paix que le Seigneur Jésus-Christ lui donne. Et dans les versets que nous voulons considérer ce matin, dans les versets suivants, les versets 10 à 16, le Seigneur énumère quatre résultats lorsque les disciples interagissent avec le monde. Et il passe du plus négatif au plus positif. Il parle tout d'abord que le disciple peut souffrir la persécution. Et c'était certainement quelque chose de courant dans les premiers siècles. Ensuite, il parle d'être le sel de la terre. Dans l'Antiquité, le sel servait de conservateur pour freiner la décomposition des aliments. Et le disciple est quelqu'un qui peut, par sa présence, par son témoignage, freiner la corruption de la société. Mais mieux encore, le disciple est une lumière pour un monde qui est dans les ténèbres, une lumière pour un individu, mais aussi une lumière pour l'ensemble de la société. Et puis finalement, les actions bonnes du disciple, sa vie, son témoignage vécu peuvent conduire les gens à louer Dieu. Et commençons donc premièrement par le premier résultat, la persécution. Et comme on a vu, les béatitudes sont pleines de surprises. On a appris à attendre l'inattendu de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà béni les pauvres en esprit. Il a déclaré heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés. Comment peut-il appeler la persécution une bénédiction? Et pourtant, c'est ce qu'il dit au verset 10, heureux ceux qui sont persécutés. Et persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et cette bénédiction, cette béatitude suit logiquement la précédente. Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré heureux, il a béni les artisans de paix, ceux qui procurent la paix. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ceux qui procurent la paix. Certains préfèrent la guerre à la paix. Il suffit de regarder l'histoire, et en particulier le Moyen-Orient. Certains Égyptiens ont assassiné Anwar Sadat, leur propre premier ministre, parce qu'il cherchait la paix avec Israël. Et plus tard, c'est un Israélien qui a assassiné son premier ministre, Isaac Rabin, parce qu'il recherchait la paix entre Israël et les Palestiniens. Et plus important, bien sûr, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a été persécuté, il a connu la persécution et de la part des autorités religieuses de son temps. Et le Seigneur nous a dit que nous marcherons sur un même chemin que le sien. Nous connaîtrons une opposition. Le serviteur n'est jamais plus au-dessus de son maître. Si les adversaires ont calomnié le maître, ils vont certainement calomnier les disciples. Le Seigneur n'est jamais celui qui va cacher la réalité. Il dit par exemple en Jean chapitre 15, versets 18 et suivants, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Mais arrêtons-nous un instant pour nous assurer qu'on a bien entendu ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Il ne dit pas que l'expérience de la souffrance est quelque chose d'agréable. Il n'est jamais agréable d'être mis en fuite, d'être chassé, d'être poursuivi par quelqu'un qui nous veut du mal. Il n'est jamais agréable de subir des insultes, de subir des calomnies par ceux qui détiennent le pouvoir et qui n'aiment pas l'évangile dans lequel nous croyons. De plus, le Seigneur Jésus-Christ ne bénit pas de manière générale ceux qui souffrent. Il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». C'est-à-dire ceux qui souffrent la persécution parce qu'ils vivent selon les normes du royaume de Dieu. Il ne bénit pas ceux qui sont punis pour leurs péchés, pour leur manque de tact, pour leur folie. Il ne va pas bénir un étudiant qui échoue un examen parce que la veille, il réconfortait une camarade de classe qui était triste. Il ne bénit pas ceux qui perdent leur emploi parce que ce qu'ils appellent le témoignage ressemble aux yeux du patron à une activité sociale ou même à un abandon de poste. Il ne bénit pas ceux qui défendent leur foi de manière odieuse et qui sont rejetés à cause de leur attitude. Non. L'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre chapitre 2 verset 19 « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Et premier sous-point, souffrir pour Christ. Le Seigneur Jésus-Christ déclare heureux ceux qui souffrent pour la justice et pour lui-même. Et les deux versets suivants, le verset 11 et 12, répètent et vont étendre cette béatitude du verset 10 en ajoutant plusieurs points, plusieurs nuances. Tout d'abord, après avoir mentionné la persécution générale au verset 20, le Seigneur va énumérer les différentes formes qu'elle prend au verset 11. Il y a les insultes, il y a cette persécution, cette poursuite, si on veut, et puis il y a la calomnie. Ensuite, deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ va personnaliser la bénédiction qu'il donne aux personnes qui souffrent pour lui et pour la justice. Il ne dit plus « heureux ceux qui », comme il a dit au début. Il dit plutôt « heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi ». La diffamation est quelque chose de terrible, c'est une tragédie. Personne ne veut souffrir de persécution, surtout pas de persécution physique. Mais nous voulons être comme le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a aimés, lui qui s'est donné pour nous, lui qui est devenu le cas suprême d'un homme innocent qui a souffert de manière injuste. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, nous ne cherchons pas à être persécutés. Mais nous ne cherchons pas à nous éloigner de la persécution. Nous savons que la souffrance n'est pas intrinsèquement méritoire, mais nous l'acceptons si elle vient. Car nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ et lui rester fidèles. L'apôtre Paul écrit en Philippiens 3, versets 10 et 11, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Les disciples sont unis à Christ, sont unis à lui par la foi. Et si nous croyons en lui, nous participons à sa vie, à sa victoire sur la mort, nous participons aussi à sa souffrance qui a précédé la mort. Troisièmement, alors que le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 10 que nous sommes heureux si nous souffrons à cause de la justice, il dit que nous sommes heureux aussi si nous souffrons à cause de lui. Le premier point demeure, le Seigneur Jésus-Christ nous bénit si nous souffrons de manière innocente. Mais alors que le verset 10 dit que nous pouvons souffrir pour notre allégeance aux valeurs du royaume, le verset 11 dit que nous pouvons souffrir pour notre allégeance au roi lui-même. La première déclaration dit que nous pouvons souffrir l'opposition simplement pour être bons. La seconde dit que nous pouvons souffrir parce que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et cette déclaration contient une revendication implicite de la divinité. Les prophètes ont été persécutés pour leur allégeance à Dieu le Père. Les disciples seront persécutés pour leur allégeance à Jésus-Christ le Fils. Les prophètes et les disciples sont prêts à souffrir pour leur fidélité à Dieu. Père et Fils. Quatrièmement, le verset 11 dit que nous devrions nous réjouir de la persécution, tandis que le verset 12 nous explique pourquoi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous nous réjouissons parce que notre persécution nous lie aux prophètes. Ils ont souffert la même chose. Si nous souffrons pour le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en bonne compagnie. Les prophètes illustrent comment la justice conduit à la persécution. Israël était enclin à la rébellion, était enclin à se détourner de l'Éternel. Et les prophètes étaient souvent appelés à réprimander le peuple d'Israël. Mais très souvent, le peuple d'Israël méprisait le message des prophètes, ce message qui leur avait été donné par Dieu lui-même. En Ésaïe 6, par exemple, le Seigneur dit au prophète, ou parle par le prophète Ésaïe, et il dit ceci, Ésaïe 6, verset 9, « Vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Et la prophétie d'Ésaïe a servi à rendre insensible le cœur du peuple, à endurcir leurs oreilles, à boucher leurs yeux. Et plus loin, dans chapitre 30 d'Ésaïe, le peuple dit au prophète, « Ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. » Les prophètes ont souvent aussi connu l'hostilité des rois, des cours royales. Mais ils ont continué à annoncer leur message. Et nous les comptons comme heureux. Ils sont déclarés heureux parce qu'ils ont eu le privilège de déclarer, d'entendre et de déclarer les paroles mêmes de Dieu. Mais les prophètes ont souffert, mais ils sont restés engagés avec le monde. Et nous aussi, nous chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous ne retirons pas de ce monde. Nos convictions vont conduire à l'action. Quand nous voyons la douleur, nous montrons de la miséricorde. Quand nous voyons le conflit, nous cherchons à mener la paix. Et le Seigneur bénit ce genre d'action. Et pourtant, quand on interagit avec le monde, les conflits de valeurs vont surgir de manière inévitable. Le monde bénit les riches. Le Seigneur Jésus-Christ bénit les pauvres en esprit. Le monde bénit les insouciants, ceux qui ne se posent pas de questions. Le Seigneur Jésus-Christ bénit ceux qui pleurent à cause de leurs péchés. Le monde bénit celui qui se met en avant. Le Seigneur Jésus-Christ bénit les doux, ceux qui sont humbles de cœur. Le monde bénit ceux qui peuvent obtenir ce qu'ils veulent. Le Seigneur Jésus-Christ bénit ceux qui ont faim et soif de justice. Le monde apprécie la vie sans problème. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples de se réjouir même de la persécution. Heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Deuxième sous-point, après souffrir pour Christ, il y a se réjouir au milieu de la persécution. C'est ce qu'il dit au verset 12. Votre récompense sera grande dans les cieux. Il ne dit pas que nous gagnons une récompense parce que nous souffrons. Il dit plutôt que notre récompense est grande. Le terme qui est traduit « récompense » ici nécessite presque des guillemets. Le terme français implique qu'on a gagné quelque chose. Mais comme on le sait, la récompense principale pour les croyants, c'est la vie éternelle et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a obtenue pour nous. On pourrait éviter les idées fausses si on appelait la vie éternelle un signe ou une reconnaissance que nous sommes dans l'équipe, la famille de Dieu. On ne peut jamais vraiment gagner quoi que ce soit de Dieu. Il ne deviendra jamais notre débiteur. La question des récompenses est importante, mais encore plus importante est la question de la joie, de pouvoir se réjouir. Il y a quelques années, deux missionnaires en Colombie ont été kidnappés par des guérillas marxistes. Ils ont été gardés comme des pions dans ce jeu politique. Tous les deux avaient enseigné dans une école missionnaire. Et on se pose la question, mais comment pouvaient-ils se réjouir d'être séparés de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs élèves? Et puis après 18 mois, les ravisseurs les ont exécutés sans raison apparente. Comment leurs femmes, comment leurs enfants, comment leurs amis, comment leurs étudiants pouvaient-ils se réjouir? L'appel que le Seigneur Jésus-Christ lance ici à se réjouir dans la persécution exige que nous renouvelions nos valeurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande à nous détacher de ce monde, à recalibrer nos idées sur le temps. On devrait se dire, notre temps sur terre est court, l'éternité est longue. Si nous endurons des insultes et des privations dans cette vie, elles sont de courte durée en comparaison de l'éternité. Et si nous devons mourir à cause de la persécution, alors nous verrons notre Seigneur et Sauveur face à face. Nous goûterons sa bonté plus tôt que nous l'avions prévu. Seigneur Jésus nous appelle à comparer cette vie avec l'éternité. Bien sûr, il y a de la valeur dans cette vie. La Bible affirme cette valeur. Elle nous enseigne ce que nous devons savoir pour vivre, pour bien vivre sur terre, pour mener une vie qui honore Dieu. Elle nous révèle la volonté de Dieu pour notre bien. Le Seigneur Jésus-Christ énumère aussi un critère essentiel. Et parfois, notre récompense pour bien vivre, c'est la persécution. Parfois, les guerriers méprisent les artisans de paix. Ils sont en colère et ils veulent rester en colère. Alors, ils vont mépriser les artisans de paix. Le Seigneur Jésus-Christ nous avertit que nous pouvons faire presque tout bien. Pourtant, le seul gain peut être l'opposition ou la persécution. Imaginons par exemple une famille avec deux enfants, un fils et une fille. Les parents sont des chrétiens dévoués. Ils sont patients, ils sont remplis d'amour, ils s'efforcent d'être de bons parents. Leur fille est un modèle de vertu. Elle est douce, elle est polyvalente, elle est disciplinée. Et elle est devenue chrétienne, elle est engagée dans la vie de l'Église. Le fils a des capacités similaires, mais il les gaspille. Il fait l'expérience de drogue, de l'alcool, il fait des fugues pendant plusieurs jours. Il gaspille son argent, il détruit des voitures, connaît même la prison. Ses parents ont été fermes, ils ont été patients, ils ont été aimants pendant tout ce temps. Parfois, leur fils les aime pour cela, et parfois, il les déteste. Parfois, il souhaite même qu'ils soient morts. Les parents connaissent leurs responsabilités, et ils prient, ils continuent d'être les meilleurs parents possibles. Ils se disent que leurs efforts peuvent être récompensés ici-bas. Et peut-être qu'il faudra attendre l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ ne promet jamais de résultats positifs dans cette vie. Bien sûr, le chrétien cherche toujours de bons résultats. Quand on va dans un bon restaurant, on s'attend à un résultat. On s'attend à bien manger. Lorsqu'on investit son argent, on s'attend à un résultat, à un retour sur l'investissement. Le Seigneur Jésus-Christ ne garantit pas des résultats positifs dans cette vie. Nos efforts peuvent produire une poignée d'euros. Ils peuvent aussi produire une poignée de poussière. Nos bonnes actions peuvent recueillir la louange. Elles peuvent aussi recueillir la persécution. L'Écriture dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais l'Écriture ne précise pas quand cela arrivera. Et si nous ne le goûtons pas sur terre, nous le goûterons au ciel. C'est une idée qui peut être troublante, mais elle peut aussi être libératrice. Et troublant de savoir que nous pouvons souffrir de manière injuste, comme Job, comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est libérateur d'admettre que nous ne pouvons pas contrôler les résultats. Nous devons chercher, bien sûr, les bons résultats, mais nous devons les laisser à Dieu. C'est lui qui fera toutes choses bonnes. Il récompensera les siens au ciel. Faisons confiance à Dieu pour nos vies, pour nos relations, pour notre santé, pour notre avenir. Quand la vie est bonne, quand tout réussit, il est possible d'être si absorbé par les bénédictions temporelles que nous oublions les bénédictions éternelles que Dieu nous donne. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande à voir les choses à la lumière de l'éternité. La persécution n'est que pour un temps. Une chose étrange dans la façon dont on parle du temps. On dit parfois que les heures sont longues, que les journées sont longues, que les semaines sont longues. Et puis on va dire que l'année est courte, qu'elle a passé très vite. On va dire que ce mois est passé tellement vite que le printemps a semblé si court cette année. La vie semble courte, mais l'éternité est longue. Quand nous serons dans l'éternité depuis 10 000 ans, on ne sera pas une seconde plus près de la fin de l'éternité. Après 10 millions d'années, le tissu du ciel ne montrera pas les premiers signes d'usure. Après 10 milliards d'années, nous n'épuiserons pas la gamme des activités que Dieu nous a préparées. Quand notre corps meurt, soit notre vie se termine immédiatement, soit elle ne se termine jamais. Et pour le croyant, notre vie ne se terminera jamais. Et par conséquent, nous devrions être prêts à attendre notre récompense au ciel. Une récompense éternelle que Dieu donne à son peuple. Deuxième résultat possible. Le sel, et rassurez-vous, on va être plus court. Après la persécution, il y a le sel de la terre. Les disciples peuvent changer le monde, être le sel de la terre, la lumière de ce monde. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on utilise le sel comme un condiment pour améliorer la saveur de la viande ou des légumes, c'est un exhausteur de goût. Mais dans les jours qui ont précédé les réfrigérateurs et les conservateurs chimiques, les gens ont utilisé le sel principalement pour prévenir la décomposition de la viande. Et de la même façon, la présence d'un disciple qui est moralement fort, qui a un témoignage, peut retarder la décadence morale dans la société. Par exemple, quelqu'un peut s'abstenir de raconter une blague obscène ou dégradante quand il est en présence d'un disciple de Jésus-Christ. Notre réputation de probité morale nous permet de fonctionner comme des contrôleurs dans une banque. Les employés de banque qui pourraient être tentés de détourner de l'argent ne vont pas le faire parce qu'ils savent que le contrôleur va les rattraper. Et de même, les hommes avec des mauvais plans peuvent les abandonner simplement parce qu'ils savent qu'un disciple de Jésus-Christ va se tenir en face d'eux. On vit dans une société pragmatique. Ces normes morales sont basses, sont changeantes, sont sujettes à l'improvisation. Mais un disciple qui est le sel n'improvise pas. Comme le sel, le disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui est stable, qui ne bouge pas. Le sel commun, qu'on appelle chlorure de sodium, est un composé chimique qui est stable. Et on peut se demander ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire au verset 13 quand il parle du sel qui perd de sa salinité. Et pour saisir son point de vue, on doit comprendre que dans l'Antiquité, le sel était un morceau de roche qui était creusé dans le sol et qui contenait beaucoup d'impuretés. Ce n'est pas pur comme on peut le voir aujourd'hui. Et l'eau pouvait s'y infiltrer. Il pouvait dissoudre le chlorure de sodium, laisser un résidu qui ressemblait à une roche salée, qui pouvait même garder sa forme originale, mais qui n'avait pas le goût du sel. Le Seigneur Jésus-Christ dit en Marc 9, 50, « Ayez du sel en vous-même. Gardez, conservez cette saveur distinctive. » Nous devons préserver cette distinction entre le disciple de Jésus-Christ et le monde. L'Église est étrangère dans ce monde, de sorte qu'elle souffre la persécution, mais elle est aussi influente, de sorte qu'elle retarde la décomposition de la société. Et plus nous acceptons et plus nous percevons notre différence avec le monde, plus notre influence sera grande, plus nous permettons à la société laïque de nous affecter moralement, spirituellement, plus nous perdons notre sel. Si la seule différence visible entre les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus-Christ et les laïcs du monde, c'est que nous nous rassemblons le dimanche matin, pourquoi voudrait-il nous rejoindre ? Non, le disciple du Seigneur Jésus-Christ est appelé à être le sel de la terre, la lumière du monde. Le troisième point, les deux autres résultats, j'ai un peu anticipé, mais troisième point, les deux autres résultats, la lumière du monde et la louange du peuple. Jésus dit en Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». En Ésaïe 49, verset 6, Dieu dit au sujet de son Fils, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ici en Matthieu 5, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Verset 14. Un disciple suit son maître pour être une bénédiction pour le monde. Nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et comme avec le sel, le Seigneur Jésus-Christ nous avertit de perdre notre efficacité en tant que lumière. Verset 14, tout comme une ville sur une montagne ne peut être cachée. De même, la lumière d'un disciple de Jésus-Christ ne devrait pas être cachée. Avant les ampoules électriques, il aurait été absurde d'allumer une lampe à huile et de mettre une couverture par-dessus. Et après nous avoir mis en garde contre la perte de notre influence, le Seigneur nous dit comment la conserver. Verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Les bonnes œuvres sont les actes concrets de bonté, d'amour pour le prochain. Une vie vertueuse, éclaire autour de nous. Il est impossible, et nous le savons, de regarder directement le soleil quand il est haut dans le ciel. Il est même très dangereux, douloureux de le faire. Mais on va regarder avec bonheur la lune. Et par une nuit claire, beaucoup vont admirer sa beauté. Et on oublie souvent que la lune ne reflète que la plus grande lumière du soleil. Et un peu de la même manière, Beaucoup de gens trouvent difficile de regarder à Dieu directement. Mais ils vont observer les chrétiens comme ils reflètent la plus grande lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et puis parfois, Dieu va envoyer sa grâce pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et les hommes et les femmes manifestent cette quatrième et meilleure réponse à un disciple. Ils voient vos bonnes œuvres comme le résultat de l'œuvre de Dieu. Ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand ils verront notre lumière, ils réaliseront qu'il doit y avoir une source pour notre bonté. Et ils concluront que c'est Dieu lui-même qui est cette source. Et ils loueront Dieu pour son œuvre en nous. Alors que dire pour terminer? Il y a quatre résultats à la vie d'un disciple. Aux extrêmes se trouvent la persécution d'un côté et la louange de Dieu de l'autre. Et entre les deux, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Le Seigneur Jésus-Christ dit que nous sommes différents. Nous sommes responsables d'agir avec nos différences. Acceptons cette responsabilité, cette description d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre. Agissons avec audace. Parlons librement. Et laissons les résultats à Dieu. Nous vivons tous sous une malédiction commune à cause du péché. Nous vivons tous sous la grâce commune de Dieu. La malédiction signifie que les chrétiens font des choses stupides comme tout le monde. Nous faisons face à l'opposition pour notre folie, mais aussi pour notre foi. Mais il y a aussi la grâce commune, de sorte que les incroyants écoutent ce que nous disons et regardent comment nous vivons. Parfois, ils vont admirer cette grâce. Et cette grâce peut devenir hors du commun. Si Dieu amène ces personnes à regarder au-delà de notre bonté, pour regarder à la source, la bonté de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Alors que notre lumière, que la grâce de Dieu brille de manière à ce que nous ne craignions pas l'opposition, que beaucoup autour de nous soient amenés à louer Dieu pour le bien qu'il voit en nous et qu'il se tourne vers lui pour trouver la vie éternelle en lui, par la foi en Jésus-Christ. Ces 16 premiers versets de Matthieu chapitre 5 sont l'ouverture de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans ces versets, le Seigneur a décrit le caractère du disciple, les résultats que nous pouvons attendre quand un disciple entre dans un monde qui fonctionne selon des normes différentes. Et Dieu voulant, nous verrons comment le Seigneur appelle ses disciples à se comporter, quelle doit être leur motivation pour être le sel, pour être la lumière dont ce monde a tant besoin. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.